Jonathan, qui va nous apporter la parole ce matin. Donc, petit contexte quand même qui est important et qui a précisé. C'est notre cher Mathieu qui devait apporter la parole ce matin. Malheureusement, pour le travail, pour différentes raisons, il a été retenu. Il était quand même avec nous là pour la louange, mais il doit malheureusement partir. Donc, Jonathan a été prévenu il y a 2 jours. Je tiens à le dire. Donc, merci Jonathan de dire yes. Mais voilà, que tu sois vraiment à l'aise et puis libre de nous apporter ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Et une autre valeur de l'Église Connect, c'est l'honneur. Pour nous, vraiment l'honneur, honorer nos parents, comme le dit la parole, honorer aussi nos frères et sœurs, ça fait partie du royaume de Dieu. De critiquer, de détruire, je pense que c'est faire l'œuvre de l'ennemi, mais encourager, élever, honorer, c'est faire l'œuvre de Dieu et de son royaume. Et donc Jonathan, je voulais t'honorer ce matin en public et te dire merci pour ton cœur. Ce qui me touche chez toi, c'est ce cœur d'adorateur, ce cœur de David que tu as, de toujours prêt à louer Dieu, toujours prêt à, de tout ton être, à vraiment dire Seigneur, je t'adore, je te loue. Peu importe le regard des autres, tu es prêt vraiment, même voilà, peu importe ce que les autres vont dire, à louer ton Dieu. Et ça, je suis certain que ça fait plaisir au cœur de Dieu. Alors merci d'être là avec ta famille, merci pour qui tu es. Sois béni. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein?
Merci Olivier, c'est juste, moi j'avais envie que tu n'arrêtes pas en fait de chanter. C'était dur de prendre la suite, le relais. Malgré tout, je vais vous conduire dans une lecture. Le Seigneur a vraiment mis quelque chose sur mon cœur. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà entendu plein de fois, je pense. Je ne vais pas réinventer la poudre. Mais malgré tout, c'est ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Alors je vais vous le partager. Dans Psaume 40, au verset 1, c'est David qui parle et dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance ». Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Alors voilà, pour moi, ça fait à peu près 15 jours que j'ai fêté mon anniversaire. Et je l'avais témoigné dans un SMS, j'ai eu l'impression de vivre une année nouvelle. C'était mes 40 ans, et j'avais l'impression d'avoir vécu un renouveau. Et je me sentais dans ce verset, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Et parfois, on crie à Dieu tellement sans espoir, sans espérance. Et c'était mon cas, je me sentais un peu... Pas qu'un peu, mais complètement sans espoir, sans espérance. Et il a entendu mes cris, il a incliné sa tête vers moi. C'est tellement bon. Et du coup, j'avais comme thème ce matin l'espérance en Dieu. L'espoir, l'espérance en Dieu. Et j'avais mis dans l'Éternel mon espérance. Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Est-ce que vous espérez quelque chose de Dieu? Souvent, en général, on espère la protection. Protection au niveau de la santé, la famille, les enfants. On espère aussi des bénédictions matérielles. Parfois, c'est aussi la paix, bien sûr. Le monde est tellement perturbé. Ça peut être aussi, comme ce dernier chant le disait, des requêtes spirituelles. Saint-Esprit, viens vivre en moi, inonde-moi. Et il y a quelques temps, je faisais du vélo, et c'était pour aller au travail. J'avais pas vraiment envie d'y aller en vélo parce que il allait faire chaud, mais je sais pas, j'avais l'impression que ce jour-là j'allais recevoir quelque chose de Dieu du fait que je fasse le vélo. Alors je suis parti de chez moi, j'étais à Livron et dans mon premier col, je fais Seigneur, si t'as quelque chose à me dire, ce serait tu peux le dire maintenant. Voilà. Et puis non, en fait, rien de particulier. Et puis j'arrive au travail à Livron et ensuite j'étais de surveillance à Chomérac justement. Et donc je monte à Chomérac, pleine cagnasse, à midi, voilà. Et toujours rien de particulier, je fais ma surveillance d'examen, et de retour, donc de Chomérac à chez moi, j'étais à peu près un peu plus de 70 km, ça commençait à faire 10 km, je n'avais jamais fait autant en vélo, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vélo non plus, donc je commençais à être un peu fatigué. Et j'ai eu ce verset « espérant contre toute espérance ». Vraiment, il est venu dans ma tête, mais de manière très très forte, espérant contre toute espérance. Et moi, dans ma version, dans une autre version de Bible, j'ai espérant alors qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir. Et ce verset, je ne savais pas où est-ce qu'il était. Et du coup, j'ai cherché. À l'époque, j'avais un téléphone encore. Et donc, la promesse, elle vient dans Genèse 12, au verset 1 et 2. C'est Dieu qui parle à Abraham et qui dit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » À ce moment-là, quand Abraham reçoit cette promesse, ben, sa femme est stérile, il n'a pas d'enfant. Et dire « Je vais faire de toi une grande nation », je pense qu'il a dû se dire « Waouh, c'est incroyable ». Mais je crois que Dieu, il veut vraiment faire avec nous des choses incroyables. Mais ça dépend aussi de notre foi et de ce qu'on attend de lui, ce qu'on espère de lui. Alors que j'étais en vélo, du coup, Dieu me mettait cette image d'Abraham, espère alors qu'il n'y a pas d'espoir. C'est vrai que souvent, c'est facile de dire, comme je parlais avec Yannick, c'est facile de dire je crois en Dieu quand on est en bonne santé, quand on a un travail, quand tout va bien. Mais des fois, quand les situations sont plus compliquées, eh ben, on a tendance à avoir du mal à espérer en Dieu parce que du coup, on fixe nos regards sur ce qu'on voit et ça devient plus compliqué parce qu'on est des hommes et qu'on ressent plein de choses, on a peur, voilà, plein de choses qui peuvent venir nous perturber dans notre foi. Et moi, ce jour-là, justement, quand j'étais en vélo, le midi, j'ai appris une nouvelle, c'est que une connaissance, hein, donc... En l'occurrence, une fille de pasteur qui était à l'article de la mort. Je savais qu'elle était malade, elle avait un cancer, et elle était à l'article de la mort. Et c'est dur d'apprendre des nouvelles comme ça, et d'entendre en même temps « espère contre toute espérance ». Et moi, dans ma tête, je me disais « mais Seigneur, au-delà de la mort, au-delà de tout ce qu'on peut voir, ben, le Seigneur il nous demande d'espérer ». Et Abraham, ben, il a espéré alors qu'il ne voyait rien. C'est-à-dire qu'il a été avec sa femme, mois après mois, il a dû se dire ben, j'ai toujours pas d'enfant. Et puis bon ben il a continué à espérer et à chaque fois il devait se dire ben je pense que cette fois-ci ça va marcher. Et puis non, ça marchait pas. Et puis il a toujours pas d'enfant. Et nous avec Céline juste après Elia, on a attendu Loïs et c'est vrai qu'on voulait qu'il soit hyper rapproché et en fait, ça venait pas. Et il y a eu des moments évidemment de doute, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je me rappelle Céline qui pleurait quand elle avait ses règles. Enfin voilà, c'est compliqué. Et on imagine, nous ça a duré 18 mois parce qu'on a eu un autre enfant, mais lui c'est toute une vie. Et ensuite sa femme, elle est devenue ménopausée. Et il a dû continuer à espérer alors que, je veux dire, humainement, il n'y a plus d'espoir, c'est la mort quoi. Enfin on va vers la mort. Et j'admire vraiment cette foi et quand on dit c'est le père de la foi, on peut vraiment comprendre à quel point c'est juste incroyable. Je regarde vite fait mes notes. Alors j'avais un verset que je ne trouve pas. Donc c'est dans Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et c'est facile de le dire, mais quand on espère quelque chose et qu'on ne le voit pas, c'est dur de démontrer qu'on l'a. Lui, en l'occurrence, je pense qu'Abraham, donc il espérait cet enfant et il n'en avait pas. Et je pense que notre réflexe à tous, ce serait la tristesse, le repli sur soi-même et se dire « mais pourquoi ?» Pourquoi j'ai pas d'enfant alors que les autres en ont? Pourquoi est-ce que moi, je suis pas guéri alors que les autres le sont? Pourquoi est-ce que moi, je vis des galères financières alors que d'autres sont bénis? Pourquoi est-ce que moi, j'ai des problèmes relationnels dans mon travail alors que d'autres, c'est tout cool? Pourquoi est-ce que... Enfin, voilà, on peut en poser plein des pourquoi, d'accord? Mais lui, il a choisi, au lieu de dire « mais pourquoi j'ai pas d'enfant ?» J'imagine qu'il a gardé sa foi, gardé sa joie et il a été... toujours ce modèle de foi. Et même, j'imagine qu'il a dû soutenir sa femme aussi en disant « Mais t'inquiète pas, on va y arriver. Ça va venir. » Voilà. J'avais envie de lire aussi dans Romains 5, 3 et 4. Donc, c'est là que les versets que j'ai cité tout à l'heure, espérant contre toute espérance. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Moi, ce verset, il m'interpelle vraiment. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et en fait, le Seigneur, quand j'étais à vélo, j'avais vraiment cette pensée que on voit la mort autour de nous. On voit des fois, on prie pour des malades, ils ne sont pas guéris. Mais Dieu nous demande de ne pas regarder à ce qu'on voit, mais de continuer à croire qu'à chaque fois qu'on prie, qu'on impose les mains au malade, le malade peut être guéri. Le malade est guéri. Et de garder cette foi, en fait, que Dieu guérit. Et je crois vraiment que cet espoir, il ne doit pas baisser, il ne doit pas faiblir comme l'espoir d'Abraham. Espérant contre toute espérance, au verset 18, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et juste dans Romains 5, au verset 3, bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, elle produit l'espérance. Donc maintenant, si je prends le verset à l'envers, si on veut de l'espérance, on a besoin de remporter des victoires. Et c'est vrai que quand on n'a jamais de victoire, c'est dur d'avoir de l'espoir. Et ça m'a rappelé forcément une partie de notre histoire, la Seconde Guerre mondiale, où Hitler avait envahi toute l'Europe, il avait attaqué la Russie, et on était juste des personnes vaincues. Voilà, des vaincus. Et moralement, c'est compliqué d'être tout le temps vaincu, d'être tout le temps dans l'échec. Et à ce moment-là, il y a la bataille de Stalingrad, qui est le tournant de la guerre, où enfin, Hitler est vaincu, en tout cas une bataille. Mais j'imagine le moral des troupes, de l'Europe entière, qui, après tant de défaites, a enfin une victoire. Voilà, une victoire. Alors, si je reprends mon verset, la victoire produit l'espérance. Mais pour avoir une victoire, il faut se battre. Il faut se battre et il faut des combats. Alors, on pourrait dire, mais Jésus a déjà tout accompli, donc normalement, on n'a pas de combat. Et c'est vrai que Jésus a tout accompli. Et nous devons simplement croire et saisir les promesses, mais ça demande un effort pour saisir ces promesses. On ne peut pas simplement attendre les bras croisés que les promesses nous tombent dans les bras. Abraham, Dieu lui avait dit « Je ferai de toi le père d'une nation », mais il a dû aller voir Sarah, sa femme. Et malgré le fait qu'il n'avait pas d'enfant, il a dû continuer à aller voir. Et les promesses, elles s'accomplissent, oui, mais ça demande de la foi, ça demande de l'espérance. J'arrive à la fin, je vous rassure. J'avais vraiment très à cœur un autre passage de la Bible qui est vraiment en lien. Je suis tombé dessus récemment alors que il m'avait déjà percuté il y a quelques temps. C'était dans 2 Rois 4 au verset 8. C'est la Tsunamite. Cette femme, elle m'a juste impressionné. Je vous lis donc les versets. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Alors déjà, une femme de distinction, je me suis toujours demandé ce que c'était. J'imagine que c'est une femme qu'on remarque. Okay, donc elle devait être belle, mais elle ne devait pas seulement être belle, elle devait être... les proverbes nous parlent de la femme vertueuse. Je pense que ça devait vraiment être la femme vertueuse, c'est-à-dire qui était pleine de talents et qui les mettait au profit des autres. Pas juste pour elle, quoi. Et d'ailleurs, la suite nous le dit. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Tout le monde n'accueille pas les gens à manger, mais elle accueillait le prophète. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? » Et je ne sais pas si vous avez jamais rêvé de cette question, mais moi, j'ai toujours rêvé de cette question. Que peut-on faire pour toi ? La question que Dieu a posée à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Voilà, la question un peu, la réponse un peu vague, qui veut trop rien dire. Et j'habite au milieu de mon peuple. Donc, en gros, elle ne demande à rien, quoi. Tout va bien. C'est quand même hallucinant, hein, un prophète qui pose une... Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Ben, rien. Merci. Et il dit, que faire pour elle, à Géasi ? Géasi répondit, elle n'a point d'enfant, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte, et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Et dans une autre version de la Bible, c'était, non, mon Seigneur, ne me donne pas de faux espoirs, ne me donne pas une fausse espérance. Et j'imagine que cette femme, elle aussi, a dû espérer cet enfant qu'elle n'avait pas, et que du coup, elle ne voulait plus qu'on lui raconte de salade en disant bah, « Tu vas avoir un enfant, non mais c'est bon, j'ai déjà cru plein de fois. » Voilà, résignée complètement. « C'est bien, je suis au milieu de mon peuple, je suis une femme de distinction. Tout va bien, j'organise des repas. Voilà, c'est... Je ne demande rien de plus. Je ne veux plus être déçue. » Donc elle a malgré tout son enfant. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père, par les moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, porte-le à sa femme, à sa mère. Donc on voit encore, le père est quand même relativement discret dans l'histoire. C'est elle qui lui dit, faisons une chambre haute, ainsi de suite. C'est elle qui fait toutes les actions. Lui, amène vers ta maman. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Donc, juste par rapport à avant, où elle disait, je suis une femme du peuple, j'attends rien. Là, on voit que son espérance, elle a complètement évolué et elle n'est plus du tout résignée comme elle était avant. Elle est dans l'action. Elle ne dit plus « je suis une femme de mon peuple ». Là, elle est dans l'action, on va chercher un serviteur, elle va voir l'homme de Dieu. D'accord ? Elle n'est plus dans la résignation, mais elle est dans l'action. Elle sait où est son espérance. Elle sait où est son espoir. C'est l'homme de Dieu. Et elle y retourne. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. » Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? Elle répondit, bien, à Géasi. Elle ne voulait pas lui parler. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. On voit là vraiment encore un respect. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Là aussi, je trouve ça beau de se dire que Dieu, j'imagine d'habitude, ne lui cachait pas ce genre de choses. Personne qui est dans l'amertume, il savait, une personne qui était mal, il savait, et il pouvait être un secours pour cette personne. Mais là, Dieu ne lui avait pas dit. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas, ne fais pas grimper mon espérance ? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, et prends ton bâton dans ta main, mon bâton, et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Donc le bâton, c'est vraiment l'autorité hein, du prophète. Mais la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. On voit vraiment, elle insiste quoi. Elle ne va pas se contenter des miettes ou du bâton. Non, elle veut le prophète. Elle ne veut pas chercher son secours ailleurs. On pourrait dire, le bâton, ça pourrait être aussi une méthode. Hein. Peut-être que des fois, il a posé son bâton et les personnes étaient guéries. Et on se dit des fois, tiens, cette personne a été guérie, elle a été voir une personne et elle a été guérie, ou elle a fait telle prière, elle a été guérie. Mais là, c'est vraiment pour moi le prophète, l'image de Dieu. Et elle ne veut que Dieu. Elle ne veut pas des techniques, des savoir-faire. Elle veut Dieu. Et donc, vous connaissez la suite. Donc, Gehazi, il va, il pose le bâton, il ne se passe rien. Et quand l'homme de Dieu arrive, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, donc sur l'enfant et sur lui-même. Et il pria l'Éternel. Et là, j'imagine qu'il a dû se dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Et j'imaginais même ce matin, en allant, en accompagnant cette femme avec son enfant qui était mort, il devait se dire, mais quand même, c'est pas rien, quoi, un enfant qui est mort. Et lui, il y va, cette femme qui est un petit peu dans l'amertume contre lui en disant, mais tu sais, je t'avais rien demandé, tu m'as donné un enfant, ben maintenant tu viens et tu... En gros, elle disait, tu viens et tu le ressuscites, quoi. Voilà. Et Élisée, il entre, ferme la porte sur eux et prie à l'Éternel. Et là, j'imagine que Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, du coup, c'est assez surprenant. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et hier, du coup, je m'étais dit, peut-être que je vais faire carrément la même chose que lui, juste pour que ça marque votre tête, avec Elia, ma fille, mais j'ai dit quand même, c'est un petit peu, ça pourrait être mal interprété. Et c'est vrai que c'est quand même impressionnant de se dire, on imagine un enfant, et le prophète qui se couche sur lui comme ça, et comme si, en fait, il y avait tout son corps. Moi, je veux dire, mon corps est bien plus grand que celui de ma fille. Donc, forcément, tout mon corps est au-dessus du sien, quoi. Et bouche sur bouche, les yeux sur les yeux, les mains dans les mains. Je trouve ça tellement parlant. Et le corps qui se réchauffe. Ça m'a fait penser au courant d'eau chaude qui était par rapport au courant d'eau froide. Ensuite, voilà, le corps se réchauffe. Il y a une action qui se passe. Élisée s'éloigna à la ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. J'imagine que quand il était ça et là par la maison, la mère devait le suivre en disant, mais bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je sais pas, j'imagine lui mettre un petit peu de doute ou de pression. Oh, il est où le gamin là? T'en fais quoi? Et puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Gehazi et dit, appelle cette Tsunamite. Gehazi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle se jeta à ses pieds à nouveau et se prosterna contre terre. Elle prit son enfant et sortit. Et par rapport à tout ce que Élisée a fait, j'avais vraiment l'image, je trouvais qu'il ressemblait vraiment au Saint-Esprit là cette fois-ci, Élisée, qu'il y a quelque chose qui est mort. L'enfant, en l'occurrence, Abraham, sa femme était stérile, elle était ménopausée, c'était mort, quoi. Il y a quelque chose qui est sans espoir, il y a la mort. Et en fait, la vie arrive. Et je crois que des fois, on a besoin de mourir à nous-mêmes. On a besoin de complètement s'abandonner à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse venir mettre la vie. Et des fois, on a tellement envie de faire par nous-mêmes, de dire des choses par nous-mêmes, de regarder et de se confier à ce que nous, on voit, de faire ce qu'on a envie de faire. Mais on a besoin de laisser tout ça mourir et de demander au Saint-Esprit de venir se poser sur notre bouche, se poser sur nos yeux, se poser sur nos mains. Parce qu'alors là, il y a tout qui se transforme. Sur la bouche, ça fait vraiment penser au souffle de l'esprit. Et notre bouche est souvent, dans la Bible, ils disent la bouche, à la fois on prophétise, on dit du bien, et en même temps on dit du mal. On a besoin de sanctifier vraiment notre bouche pour qu'on puisse être utilisé par l'esprit pour prophétiser sur des gens et pour, au-delà de tout ce qui se passe dans leur vie, annoncer la vie, prophétiser sur les ossements desséchés, annoncer la vie, les yeux, voir comme Dieu voit, Souvent, je me demande comment Jésus voyait les gens, avec tellement de compassion, tellement d'amour. Mais il n'en restait pas là. Derrière, il y avait l'action. Et voir le surnaturel. Aucune limite. C'est vrai que nous, on a tendance à voir avec nos yeux et dire « c'est impossible, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Là, vraiment, je ne vois pas de solution. Mais Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Et aucune limite. Et ça me faisait penser aussi au prophète, je ne sais plus, c'est Élisée ou Élie, quand ils sont entourés par la muraille et qu'il y a une ville qui est assiégée et que Élisée annonce, ou Élie donc du coup, « Demain, on mangera à notre faim », alors que il y a le siège, quoi. Et à ce moment-là, le serviteur dit, mais comment ce serait possible? Et le prophète demande à Dieu de lui ouvrir les yeux, et là, il voit l'armée de l'Éternel qui est là dans le ciel. Et des fois, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que nos prières décollent pas, quoi. Qu'il se passe rien, on intercède, et il se passe rien. Et je lisais cette semaine aussi Daniel, quand il a prié, il s'est humilié. Et là, il y a l'ange qui vient et qui lui dit, dès que tu as prié, dès que tu as prononcé, je t'ai entendu. Et en fait, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'il dit, enfin moi dans ma version, c'est je t'aime. Là, dans cette version-là, c'est tu es précieux, ou tu es un homme qui compte pour Dieu. Et de suite, en fait, quand Dieu s'approche de nous, il s'approche de nous avec de l'amour et le changement est là, en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Les mains, enfin, ça parle vraiment de l'action. Et encore une fois, le modèle, c'est Jésus. Et Jésus, il prenait les enfants dans ses mains. Il les prenait sur lui. J'imagine qu'il était tactile quand même. Il n'était pas distant, à ne pas vouloir. Il allait toucher les lépreux. Ceux qu'on disait que tout le monde méprisait et rejetait, lui, il allait les toucher, j'imagine, les prendre dans ses bras, les aimer, les guérir, bien sûr. Et du coup, là, je vous ai présenté trois types d'attitudes différentes par rapport à l'espérance. Il y a le début de la femme tsunamite qui dit « Non merci, j'en veux pas. Je vais très bien. Je suis très bien dans ma ville. J'ai besoin de rien. » Et puis juste après, elle a eu son exaucement. Comme je disais, qu'on a une victoire. Alors l'espérance, on sait où elle se trouve. Et là, elle retourne voir l'homme de Dieu. Donc il y a cette deuxième étape. Et puis la troisième étape où en fait, il y a vraiment la vie qui est rendu. Et je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, mais il y a de l'espérance en Dieu. Et j'aimerais simplement vous dire que Dieu est le Dieu qui redonne la vie, quelle que soit la mort qui est sous vos yeux, quelle que soit la boue dans laquelle vous êtes, quelle que soit la fosse dans laquelle vous êtes tombé, Dieu est le Dieu de l'espérance, Dieu est le Dieu de la vie. Et il veut redonner la vie, mais on a besoin de s'abandonner à lui. Cette espérance, comme je disais, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose de financier, ça peut être une demande de bénédiction, mais on a besoin de placer notre espérance en Dieu. Et c'est facile de le dire, mais là, ce matin, moi, je vous demande de le faire concrètement et de voir dans quel domaine vous voulez que Dieu redonne la vie. Qu'est-ce qui est mort en vous? Dans quoi, en fait, vous dites que c'est pas possible? J'ai tellement demandé, c'est pas possible que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu peut faire quelque chose. Et Dieu veut faire quelque chose. On voit que d'ailleurs, le prophète, il n'a pas dit non, j'ai pas envie. Hein. Il a été quand la femme lui a demandé. Elle a insisté, mais quand elle a insisté, elle est venue. Et ce matin, l'éphémérite, c'était demander. Et vous recevrez dans les petits feuillets, demander et vous recevrez. Mais qu'est-ce que vous voulez demander? Si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien. Qu'est-ce que vous espérez de Dieu? Qu'est-ce que vous avez envie que Dieu fasse pour vous? Moi, ça faisait 15 jours, et je te remercie, Olivier, d'avoir chanté ce chant. J'avais ce chant, « Saint-Esprit qui donne vie. » Mais c'était un sans arrêt. Il revenait, et je ne le connais pas, c'est toi qui l'as chanté il y a quelque temps. Et il revenait, mais tout le temps. « Viens vivre en moi, inonde-moi. » Voilà, et sonde-moi, Saint-Esprit. Moi, j'aspire vraiment. Et c'est vrai que dans mon concret, je ne vois pas encore ce que je voudrais voir de surnaturel. Mais j'espère contre toute espérance. Et je sais que je verrai ce que je veux voir s'accomplir. Mais qu'est-ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie? Moi, je veux voir des miracles, je veux voir des guérisons, je veux que tous ceux sur qui je pose mes mains soient guéris. Je ne le vis pas, mais je veux le voir. J'espère contre toute espérance et je continue de le faire parce que je crois que Dieu le fait. Pas moi, mais au nom de Jésus. Et je pense que le prophète, avant de prier pour l'enfant, bah, il devait se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui a donné la méthode. Alors voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous ce matin? Voilà, c'est ma question.